Y a jamais de jour férié dans Cop Noir. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. On va évidemment revenir sur cette fin de saison qui est passionnante pour les Lillois et pour les Lensois. Et on va donc en parler évidemment comme chaque soir avec nos supporters en direct en plateau. Au sommaire ce soir, cette fois c'est fait, Lens terminera deuxième de Ligue 1 et sera donc qualifié directement pour la Ligue des Champions. Samedi, en plus d'une victoire à Bollard face à Ajaccio, les Sangayors ont surtout pu fêter une équipe et une saison exceptionnelles. Si c'est acté pour Lens, Lille a encore tout à gagner lors de la dernière journée samedi. Après leur victoire 2-1 contre Nantes, les Dogs sont désormais quatrième. Une victoire à 3 samedi leur permettrait d'accrocher l'Europa League, une chose qui était encore inespérée il y a quelques semaines. Enfin, peut-être deux clubs nordistes en Europe la saison prochaine, ça s'est pas vu depuis les années 2006-2007, et au-delà du prestige et des matchs en plus à gérer en semaine, vous découvrirez à la fin de l'émission ce qu'ont à y gagner nos deux équipes. On en parle ce soir avec côté Lensois, Denis Couvelard. Bonsoir Denis.
Bonsoir Vincent.
Supporter du Racing Club de Lens, et face à toi, Guillaume Bataillé, journaliste pour Europe 2. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Et puis vous aussi, vous pouvez participer comme chaque soir à ces débats. On se donne rendez-vous notamment sur Twitter avec le hashtag CopNord. Et on commence donc cette émission, cette nouvelle émission avec la victoire de Lens face à Ajaccio. C'était évidemment samedi. Résumé de la rencontre avec Nicolas Flon.
Leur 17e victoire en 19 matchs à Bollard cette saison avait tout l'air d'une balade. Face à des Corses déjà relégués, les Sangayors accélèrent après 16 minutes. Le centre de Thomasson trouve Machado de la tête qui ouvre le score. Lens est lancé et marque un second but 6 minutes plus tard. Thomasson, passeur un peu plus tôt, se mue en buteur avec cette frappe dans la surface. Sur pénalty avant la mi-temps, Loïs Openda inscrit son 20e but de la saison et scelle la victoire des Sangayors. Lens est officiellement vice-champion de France.
Donc ça ressemblait un peu à une promenade de santé pour des Lensois face à des Ajacciens qui n'ont pas existé. Près de 80% de possession pour les Sangayors, 739 passes contre 197, 12 tirs à 6 et aucun cadré côté Corse. Alors avant de parler top et flop, on va juste plutôt parler flop, ça doit pas être facile de trouver dans ce genre de rencontre. Tony, pour toi, qui a été le moins en vue côté Lensois?
Bah, j'aurais du mal à te donner un nom, pour être tout sincère, parce que je pense que c'était assez uniforme dans le niveau, donc je pourrais pas trop donner de flop.
Le moins en vue, c'est Samba, on l'a pas vu. Après, mon flop, ce serait le discours de Francaise, pas très optimiste pour la suite. On en reparlera.
Évidemment, on va en reparler. Évidemment, ouais. On va en reparler, mais c'est vrai que donc, prestation très aboutie côté Lensois. Donc le top maintenant, Denis, ça t'a peut-être moins de mal à trouver.
Moi, je dirais Thomasson.
Thomasson aussi, qui c'est un peu lui qui a dicté le rythme en attaque, c'est ça?
Bah, il a été clinique, il a mis un but, une passe décisive. Il montre une nouvelle fois que son intégration, elle est parfaite depuis l'hiver.
Je pense qu'on est... Ah ouais, je suis tout à fait d'accord avec... on avait pas forcément... Enfin, on savait que techniquement, il avait les ressources et les armes pour s'intégrer au collectif. Mais c'est vrai que là, c'est au-delà de nos espérances. Quand il est arrivé en janvier, on savait qu'il pouvait avoir rentré dans la rotation. Mais finalement, il était plus que dans la rotation. Donc, il a vraiment apporté... Puis là, ce match, c'est le reflet de tout ce qu'il a apporté depuis qu'il est arrivé.
Il n'y a pas vraiment eu match, il n'y a pas vraiment eu d'adversaire.
Pas du tout. Ajaccio, c'est une équipe qui mérite d'être en Ligue 2. C'est le cas depuis un petit moment. Et puis, face à Lens, qui est intraitable à domicile, c'était impossible pour les Ajacciens.
Ils ont même réussi à oublier un de leurs joueurs, le bus qui est parti sans leur joueur. On peut quand même raconter pas mal d'anecdotes sur cette rencontre. On a vu donc un match très rapidement plié. Ouais. C'est ça que vous retenez aussi, c'est ouais. En une demi-heure, c'était fini, 3 buts.
Je dirais ça, je trouve que c'est aussi la différence par rapport aux deux saisons précédentes, c'est que c'est ces matchs-là qu'on avait du mal à remporter les dernières devant des bus, devant des groupes vraiment très compacts. On arrive à faire la différence, à faire preuve de patience. Je pense que dans le sens, justement, le fait de jouer avec Thomasson et Fulgini en soutien en faux 10, relayeur ou autre, je trouve que ça apporte beaucoup. C'est des matchs que l'année dernière, on n'aurait pas gagné, quoi. Je pense sur lesquels on aurait terminé, on se serait cassé les dents sur leur bloc. Donc effectivement, on aurait pu aussi se dire que la pression allait avoir un impact, et puis finalement, pas du tout, quoi. On a senti que quand même le groupe était porté donc par l'enjeu finalement et pas freiné par l'enjeu, donc ça c'est vraiment plutôt convaincant, quoi.
Ouais, vraie maturité.
Je suis entièrement d'accord, mais on sait qu'il y a eu un petit mois de flottement en février en mars. Lens s'est totalement remis de ça, comme c'était l'année dernière, sauf que en février en mars ça a duré. Là cette année ça n'a pas duré. Contre Ajaccio, il n'y avait pas de match.
Ça, ils ont réussi en tout cas à faire le match qu'ils devaient, les 3 points donc qui leur assurent la seconde place, finir le travail à la maison, c'est ce que retient aussi Brice Samba.
Il y a un bel exemple hier et aujourd'hui avec Dortmund, donc voilà, on s'est servi un peu de ça. On sait très bien que c'est pas simple, même si on savait qu'à la maison c'était une forteresse, on était difficile à battre ici, mais voilà, c'est des matchs, vous savez, ça se joue que émotionnellement, donc fallait savoir gérer tout cela, et c'est ce qu'on a su bien faire en asphyxiant cette équipe d'Ajaccio dès le début, et voilà, qui nous a facilité le match. Voilà, rendre fier ce peuple lensois, c'est... J'ai pas de mots honnêtement pour décrire la fierté, à quel point on est heureux honnêtement d'avoir réussi un truc exceptionnel.
Et en été, donc, on a parlé des buteurs, hein. On a vu donc Machado, Thomasson et Openda qui a tiré pour une fois un pénalty. Frankowski était suspendu. Openda qui rentre donc dans l'histoire du club avec ce 20e but, il égale le record qui datait de la saison 93-94.
Roger Bolli.
Exactement. Souvenir, évidemment, la célébration de l'avion qu'il a fait en hommage. Ce penalty pour Openda, c'était quoi? C'est pour lui faire gonfler ses stats qu'il arrive à cette barre un peu symbolique de 20 buts sur l'année?
Moi, j'ai l'impression quand même qu'il lui laisse le ballon. Hein. Je ne sais pas si c'était accordé derrière Frankowski, que ce soit lui qui tire le pénal.
Je crois que c'est Fofana après, non?
Normalement, c'est Fofana, je pense. Le deuxième tireur. Mais là, visiblement, ils se sont dirigés vers lui. Je pense qu'ils voulaient lui permettre de mettre le 20e devant le public, quoi, de Bollard directement. Et devant Bolli, visiblement, c'était une envie aussi de pouvoir le faire avec Roger Bolli dans les tribunes. Quoi.
Ça fait partie des joueurs qui, toi, t'ont marqué, Roger Bolli?
Ah ouais, bien sûr. Hein, moi, j'ai grandi avec ses exploits, avec cette manière aussi qu'il avait d'être explosif. Et puis, ce côté très souriant. Enfin, je trouve que c'est un point commun qu'il a avec Luis Openda. C'est des joueurs qui ont le sourire et qui ont vraiment la banane. Je pense que c'est un point commun qui entre. Après, forcément, il y avait des différences au niveau du jeu. Mais j'ai l'impression, en plus, on avait vu une interview croisée entre les deux où on sentait vraiment que Roger Bolli, lui, il n'avait qu'une envie, c'était que son record soit battu. Parce que c'était à la fois, ça signifiait certainement une bonne saison et une qualification probable pour la Ligue des Champions. Et en même temps, parce que comme il l'a dit lui-même encore dans l'interview, en fait, tout le monde est là pour une époque, que Loïs sera peut-être battu dans quelques années, mais que quelque part, il fallait aussi construire l'histoire. Quoi.
Et puisqu'il reste encore un match pour peut-être battre ce record. En tout cas, on a parlé de deux hommes très proches, Luis Openda et Roger Bolli. Ça s'est encore vu à la fin de la rencontre.
C'est mon jumeau maintenant.
On est jumeaux, c'est
clair. J'ai envie qu'il continue à marquer, mais j'espère qu'il marquera un 21 but et plus encore. Et j'espère qu'il restera à Lens et continuera à marquer ici.
Alors le dernier match, c'est samedi, c'est à Auxerre qui joue pour son maintien. Vous vous attendez à quel genre de match? Est-ce que Lens peut lever le pied en gros?
Non, je pense pas qu'ils vont le faire. Ça, c'est pas trop le discours de Francaise tout au long de l'année. Donc, je pense que ce sera un match de Lens comme on en voit assez régulièrement. Et on verra bien.
Mais effectivement, je pense pas qu'ils vont lâcher le match. Dans l'esprit, il est très à cheval sur l'équité sportive. Donc, s'il influe comme ça sur le maintien de l'autre côté, je pense que ça correspond pas trop aux valeurs de Francaise ni aux valeurs du club. Donc, peut-être qu'après, il va faire tourner pour permettre à des joueurs qui n'ont pas trop joué cette année, peut-être de pouvoir avoir une apparition en plus. Peut-être
par exemple, Pereira da Costa, qui est rentré à la 70e, à la place de Thomasson d'ailleurs. Ça fait partie de ces joueurs-là que tu aimerais revoir sur le terrain pour le dernier match?
Ouais, il est sorti de la rotation parce qu'il a été moins convaincant pendant la période, d'ailleurs qui correspond un peu au mood de Lens cette année. Maintenant, c'est quand même un joueur formé au club. Je pense qu'il faut aussi peut-être donner les moyens de continuer de sentir investi. Donc je pense que ça pourrait être une option. Il parle aussi beaucoup de Jean-Louis Lec, de peut-être lui offrir la possibilité de jouer.
Jean-Louis
Lec. Ah bah oui,
c'est normal. Beau. Il fait ça bien. Juste un mot aussi sur ce retour de la Ligue des Champions. On a vu pas mal de célébrations à la fin de la rencontre. C'était le dernier match de l'année au Stade Bollaert. Cette petite musique comme ça qui s'est jouée dans les travées, ça t'a fait quelque chose, Denis?
Ah, c'était des frissons. Hein. Moi, je me rappellerai forcément les deux premières expériences en Ligue des Champions, d'avoir battu le Milan, la grande époque, et le Deportivo de la belle époque aussi. Donc ouais, forcément, c'est que de souvenirs. Et puis j'ai envie de me dire qu'on va pas faire de la figuration et qu'on va forcément montrer quelque chose pendant ce truc.
Soirée d'émotion, donc c'était aussi pour le cas pour tous ces supporters qu'on avait croisés aux sorties des travées du Stade Bollaert. Écoutez.
Fantastique, une saison inoubliable. Et aujourd'hui, on va vivre la Ligue des Champions. J'ai fait découvrir ça à mon fils. C'est une passion qui se transmet. C'est des valeurs, les valeurs de la région.
Merveilleux. Ils nous ont tout donné, mais franchement, tout donné. Franchement, c'était le bonheur.
C'est un club de cœur et on voit les corons, tout ce qu'on chante. C'est magnifique, on voit une saison magnifique. Des joueurs qui nous sont toujours là pour nous. Je suis très fier de Lens.
Et puis un mot aussi de ces trophées UNFP, c'était hier soir, sans surprise, il y a des Lensois qui ont été primés. Brice Samba, meilleur gardien, Francaise, meilleur entraîneur. 400 erreurs dans le 11 type de la saison, il y en a un par ligne, Samba, Danso, Fofana et Openda. Est-ce que pour vous, c'est des récompenses qui sont cohérentes?
Ouais, c'est mérité. Ça a été dit dans le Cop Nord la semaine dernière.
Même pour Fofana et Openda.
Fofana, on peut dire qu'il a peut-être manqué un petit peu de régularité au cours de la saison, mais c'est un joueur tellement important, il est tellement impressionnant quand il est en forme, quand il est à 100%, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, donc forcément, moi je le vois dans l'équipe type, oui.
Il n'y a pas de Lillois, ça vous étonne ou pas? Est-ce qu'il y en aurait un?
Parce que Lille est un petit peu en dessous de Lens, forcément, donc au niveau des joueurs, ça se ressent. Chevalier, il fait une super saison, mais je ne le voyais pas meilleur gardien.
Brice, est-ce qu'un Cabella aurait pu être à la place de Fofana, par exemple?
Peut-être que Cabella était plus régulier que Fofana, mais quand Fofana, il est à 100%, c'est
ou David à la place d'Openda, par exemple?
Ouais, je sais pas, parce que ça, Openda, pareil, comme Neuer Seco, a eu pendant quand même des petits coups de moins bien, des périodes un peu de disette. Bon, il a su être décisif à des moments vraiment importants. Je pense aussi, là où je te rejoins, Guillaume, c'est que Seco Fofana, il a su être décisif dans des moments très très importants, vraiment phares et clés de la fin de saison. Donc c'est peut-être ça qui fait que sa nomination est là. Bon, je suis assez d'accord avec vous dans le sens où Cabella a quand même été particulièrement bon toute la saison. Il a été très régulier. Je veux dire, si ce n'est ce raté qu'il avait eu, mais je veux dire, toute la saison, il a quand même été prépondérant dans la saison de Lille. Donc si je sais pas, à un moment il discutait peut-être de faire aussi une sorte de banc. Je pense qu'il avait largement sa place dans les 16 meilleurs joueurs de la saison.
Oui, puis Lens, ils sont beaucoup plus mis en avant que Lille, forcément, puisqu'ils sont deuxième du championnat, c'est normal. Donc forcément, vu que c'est les joueurs qui votent, les joueurs, ils vont peut-être qu'ils votent à la va-vite, et puis ils votent pour ceux qui sont les plus connus. Je sais pas, peut-être qu'Openda, il est un peu plus connu que David.
Peut-être un peu plus sympathique. Enfin, après, c'est des affinités.
Voilà, c'est des affinités personnelles.
Aussi, on va revenir sur cette soirée, sur ce qui s'est dit aussi dans cette soirée. Francaise, qui a donc été plusieurs fois questionné sur son avenir, vous me voyez arriver, il a dit notamment « Je suis sous contrat, évidemment que j'ai envie de vivre la Ligue des Champions avec mon groupe, mais il faut prendre le temps de la réflexion et de la discussion. Alors, question, la Ligue des Champions avec vous sur le banc, c'est ce qui lui a été posé. Il a répondu « Je l'espère ». Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Il a le mérite d'être franc, au moins. Mais c'est vrai que moi...
Il dit pas grand-chose.
On attend la réunion avec la direction. Qu'est-ce que la direction va lui proposer par rapport aux ambitions? Parce que si c'est pour...
C'est une négociation pour vous? C'est une méthode d'aller chercher quoi? Un peu plus?
On sait qu'ils vont avoir 120 millions d'euros de budget, donc forcément, il va falloir recruter et pas perdre trop de joueurs clés. Ils sont dans l'équipe type de Ligue 1, les Danso, Samba, on espère que Lens va les garder. Qu'est-ce que va dire la direction à Franck Hez? Est-ce qu'on va garder les joueurs? Est-ce qu'on va recruter intelligemment, comme ça a été le cas avec Fulgini et Thomasson?
Pour toi, il sera là l'année prochaine, Franck Hez?
Pour moi, oui, mais il a l'air quand même... il était quand même assez évasif.
Donc ouais. C'est pour ça que quand tu dis qu'il était assez franc, il y a encore pas mal de questions qui se posent. Denis, pour toi, il est là l'année prochaine?
Je pense que oui. Maintenant, je pense que cette manière de là, c'est pour bien faire comprendre aux dirigeants qu'on peut pas partir sur une saison en Ligue des Champions avec tout ce que ça m'a imposé comme match en complément sans avoir un banc peut-être un peu plus étoffé et au moins une recrue par ligne, je pense. Moi, concernant Samba, vu qu'il a fait le choix de pas jouer en première ligue avec Forest pour venir à Lens, je le vois difficilement partir, mais c'est vrai qu'on sent que Danso, il va être demandé, courtisé, ouais. Je pense que Medina, c'est pareil, parce qu'il a quand même cet avantage de casser les lignes. C'est qu'au Fofana, il est resté. Alors, au début, la prolongation, on disait que c'était peut-être aussi un moyen pour Lens d'avoir peut-être un bon petit chèque si jamais il devait partir. Je pense que là, ce groupe, il a l'air d'être tellement uni, je ne les imagine pas faire la
pré-possible pour joueur, les joueurs. Ni entraîneur. On verra ça, donc évidemment, on va suivre ça avec attention. On aura encore largement le temps de parler de ce mercato. On se quitte pour l'instant quelques instants. On se retrouve juste après la pub et on va revenir donc sur la victoire de Lille qui revient à la 4e place. À tout de suite. On est de retour dans Cop Nord et on va maintenant parler de cette victoire de Lille face à Nantes, résumé avec Nicolas Flon.
Le LOSC réalise le coup parfait dans la course à l'Europa League. Face à Nantes, les Dogs manquent pourtant leur première période, fébrile à l'image de cette passe ratée d'Alexandro, Quentin Merlin en profite et trompe Chevalier à la 17e minute. Mis à mal par des Canaris qui jouent leur survie en Ligue 1, les Lillois obtiennent un pénalty en début de seconde période. Ounas s'est fauché dans la surface, Jonathan David transforme. À 10 minutes de la fin du match, le scénario se répète. Nouveau pénalty pour le LOSC, David s'offre un doublé et un 24e but en championnat. Lille s'impose 2-1 et monte à la 4e place de Ligue 1.
Et c'était samedi, donc un nouveau match typique du Fonseca Ball. 65% de possession côté Lillois, 9 tirs dont 2 cadrés pour les Dogs contre 8 tirs et 3 cadrés pour les Nantais. Vraiment beaucoup de ballons, mais on ne sait pas forcément toujours quoi en faire quand on approche des buts. Côté Lillois, votre top très rapidement, Guillaume?
Jonathan David.
David.
Jonathan David.
Pour ces deux pénaltys?
Oui, quand on fait appel à lui, parce qu'il ne jouait pas son poste. Il jouait plus côté droit, c'est Mohamed Bayou qui était dans l'axe à sa place. ça change pas grand-chose. Il répond toujours présent quand il y a le pénalty. Bon, il l'a raté, mais après, il l'a retiré. Il y avait beaucoup de sang-froid de sa part.
Oui, parce qu'on explique donc ce deuxième tir au but tenté par Jonathan David. S'il a dû être retiré, c'est parce qu'Alban Lafont, le gardien, n'avait plus les pieds sur la ligne.
Exactement.
Donc le règlement stipule qu'effectivement, c'est à retirer.
Et puis ça récompense sa bonne saison. Il fait une super saison, Jonathan David.
Le vrai sang-froid de Jonathan David. Une vraie histoire d'amour pour Jonathan David et les pénaltys, puisqu'il en est à 11 sur 12, toutes compétitions confondues cette saison. Il en a raté un seul. C'était à la quatrième journée, c'était au mois d'août. Et c'était à Ajaccio. Il avait tiré sur le poteau, donc il n'avait vraiment pas raté de beaucoup. Et depuis, c'est plutôt bien repris. Votre flop maintenant ?
Mohamed Bayo.
Bayo donc.
Mohamed Bayo également.
Qui est en pointe, qu'on n'a pas vu, qui était sorti à la mi-temps.
Il est sorti à la mi-temps. Quand on sort un joueur à la mi-temps, c'est vraiment pas bon signe. Et dans le top, je voulais mettre aussi l'entrée d'Adam Mounas, qui a changé un petit peu le cours du match.
Mais ouais, Mohamed... qui fonctionne avec la sortie de Bayo donc.
Exactement. Mais le flop, Mohamed Bayo, parce que.
Saison compliquée.
Sa saison est vraiment très compliquée. Il a un très gros salaire, c'est un gros transfert. On l'a pas vu beaucoup jouer. Quand il joue, il est pas bon. Et puis y a un petit peu un manque d'application, je trouve, de sa part. Je pense que je sais pas ce que va en faire le LOSC pour la saison prochaine, s'il va partir. Mais il faudra qu'il soit beaucoup plus impliqué, que ce soit sur le terrain et en dehors. On l'a déjà assez répété. Il faut qu'il change, à mon avis, de stratégie, on va dire.
En tout cas, la gestion tactique, elle a été expliquée par Paulo Fonseca à la fin de ce match. Écoutez.
Nous avons besoin de plus d'initiatives individuelles. Et avec Onaz, nous savons qu'il est très fort dans les situations d'un contre un, à créer une situation pour faire le but. C'est vrai que Onaz, ce n'est pas la meilleure condition physique, mais il a entré, il a changé le match.
Il reste donc un match aux Lillois qui ont les cartes en main pour rester à cette quatrième place. Une victoire à 3 suffit. Mais quand on voit ce qui s'est passé à Lille avec les petits cette saison, je pense par exemple à la défaite à Angers, est-ce que vous avez peur d'un faux pas possible côté Lillois ?
Avec le LOSC, on peut s'attendre à tout. On peut s'attendre à une défaite à Angers alors qu'ils ont le match en main. On peut s'attendre à un super match contre Paris. On peut s'attendre à de l'inefficacité. En fait, c'est extrêmement dur de pronostiquer Lille cette saison, même si ils ont toujours la possession de balle, ça on le sait d'avance, et surtout contre une petite équipe, mais c'est extrêmement dur de pronostiquer cette équipe.
Denis, tu vois un score sur Ken?
Moi, je pense que Lille va quand même gagner, parce que 3, ils sont en déliquescence totale, là, déjà depuis le départ d'Irles, donc déjà, ça va être compliqué, effectivement. Ils ont eu du mal cette saison sur certaines occasions, on les attendait, mais j'ai pas l'impression. Je pense que là, ils sont quand même mis dans la situation où ils peuvent. Ça sera certainement la dernière de Jonathan David, a priori.
Il y a
plusieurs départs de prévu, donc c'est peut-être aussi moyen pour eux de terminer en apothéose. Donc non, moi je vois bien Lille ne pas craquer, se qualifier, puis franchement ça serait super.
Il y a beaucoup de supporters lillois qui vont faire le déplacement à 3, donc... Revenons sur cette qualification en Ligue des Champions acquise pour Lens. Qu'est-ce que ça peut rapporter, notamment au niveau financier ? Les explications d'Arthur Jean.
Le retour des Lensois en Ligue des Champions, ce n'est pas que des émotions. Il y a aussi un beau pactole à la clé. Un tout petit peu plus de 15 millions d'euros. C'est ce que toucheront les 100 et or pour s'être qualifiés en phase de poule. Ajoutez à cela 900 000 euros pour chaque match et près de 3 millions pour une victoire. Sans compter les droits télé qui devraient s'élever à une somme entre 21 et 27 millions d'euros. Pour résumer, cela ferait un total d'environ 38 millions d'euros pour le RC Lens.
La différence entre être balancé sur la Ligue Europa et jouer la Ligue des Champions en termes financiers est considérable. C'est vrai que c'était compliqué de planifier en fait la saison. Quand j'ai repris le club, pour vous donner des éléments financiers très concrets, on avait 17 millions de revenus. Et là, je pense qu'en Ligue des Champions, on va peut-être toucher les 120 millions l'an prochain. Donc on a fait... Pas loin de fois 6 ou fois 7 sur cette période, sur les 5 dernières années.
Et pour être totalement transparent, on a donc les chiffres pour le Racing Club de Lens et la Ligue des Champions. On n'a pas réussi à trouver ceux pour une qualification en Europa League ou même pour une Ligue Europa Conférence. Lens qui passe de 17 à 120 millions d'euros de revenus. Est-ce que c'est des 100 et or qui vont passer une nouvelle dimension pour vous ?
C'est clairement une nouvelle dimension. Mais après, c'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu sais quoi en faire. On peut parler du PSG. Lens change complètement de dimension. 120 millions d'euros, mais pour faire quoi? Pour acheter qui? Comment? C'est pour ça que moi, je me répète, la priorité du club, c'est de conserver Franck Hez, puisque Franck Hez s'est recruté intelligemment.
C'est pas qu'un entraîneur, c'est un manager. Pour toi aussi, c'est la priorité, même avec tout cet argent qui arrive, c'est d'abord de consolider ce qu'on a avant de continuer de construire.
Ouais, c'est la priorité, parce que repartir avec un nouveau coach, ça aurait pas de sens, puisque c'est comme lui qui a construit ce groupe en 3 ans. Et en plus, il a suffisamment fait l'hommage pendant la cérémonie des trophées UNFP. Donc effectivement, pour moi, la priorité, ça c'est absolument de conserver Franck Hez. Le conserver au maximum nos joueurs phares, hein, des joueurs bien évidemment importants comme Seko Fofana, Kevin Danso, Medina, Openda, parce que bon, même s'il est pisté par le Milan à 25 millions, j'espère bien qu'il ne le craquerait pas pour 25 millions quand même, ils l'ont acheté 10.
C'est quoi pour toi le prix d'un Openda aujourd'hui?
Bah, quand on voit les sommes maintenant, ils sont capables de mettre 65 millions là, pour garder le 6 du Sporting. Là, donc je me dis qu'on ne peut pas demander minimum, enfin moins de 35 millions pour un joueur comme ça.
Ben on verra. En tout cas, on va suivre ça avec attention. 35 millions pour Openda. J'ai vu que t'as tiqué, Guillaume.
Ouais, moi j'ai mis un 50 millions d'euros facile.
Ouais.
Un petit club anglais, sympathique, qui a beaucoup d'argent.
Openda en Angleterre, pourquoi pas? Mais de toute façon, on attend, évidemment, il y aura pas mal de choses.
Faut pas qu'il parte.
Ah oui, faut pas qu'il parte. C'est encore un autre débat, mais évidemment, il y a une réalité. L'argent, malheureusement, dans le sport, qui fait qu'on pourra pas tout garder, et tous les joueurs, que ce soit à Lille ou encore à Lens. On jette un coup d'œil en classement avec Lille. Lens, qui est donc enfin assuré de finir deuxième de Ligue 1. Ils ont désormais 8 points de plus que Marseille. L'autre bonne nouvelle, c'est donc Lille qui grimpe sur la 4e marche de ce classement. Des Dogs qui ont 1 point de plus que Monaco et Rennes. Alors, une dernière journée samedi qui va être riche en suspense. Tous les matchs auront lieu évidemment en même temps à 21h. Lens sera à Auxerre et Lille à 3. Et il faudra avoir un œil sur Rennes qui sera à Brest et Monaco qui recevra Toulouse. Et le reste de l'actualité sportive de la région avec Arthur Jean.
La belle histoire de ce début de Roland-Garros, c'est celle de Lucas Pouille. Après avoir difficilement battu l'Autrichien Rodionov en qualification, le nordiste a récidivé hier. Porté par un court numéro 14 acquis à sa cause, l'ancien 10e au classement ATP s'est hissé à un niveau inattendu. Résultat, une victoire 6-2, 6-4, 6-3 et une qualification pour le prochain tour, mercredi. Un petit tour et puis s'en va. Kristina Mladenovic ne verra pas plus loin que ce deuxième jour à Roland-Garros. Elle s'est inclinée 7-5, 6-1 face à l'américaine Kayla Day. Nouvelle défaite inquiétante pour la native de Saint-Paul-sur-Mer. Elle n'a plus gagné un match en simple depuis le mois de mars. Pour Valenciennes, le maintien en Ligue 2 est quasiment obtenu. Il a suffi d'un but à VA pour s'imposer au Hainaut face à Grenoble. L'œuvre d'un Mohamed Kaba plein de réussite sur le coup. Ces 3 points sont précieux pour les Valenciennois, 13e du championnat. Il suffira d'un match nul la semaine prochaine pour assurer le maintien. Mais ce n'est pas gagné, car c'est un déplacement à Saint-Étienne qui attend les hommes d'Ahmed Kantar. Il aura fallu attendre la dernière journée pour que Dunkerque s'assure de monter en Ligue 2. Une promotion obtenue au bout d'un match fou. À la pause, Ipiele et Gris permettent à l'USLD de mener tranquillement 2-0. Mais Demenso Coria s'égalise en seulement 4 minutes. Avant que Ryan Grib n'offre l'accession à l'échelon supérieur à tout un groupe. 2 ans après, les Dunkerquois retrouvent la Ligue 2.
Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci Guillaume et Denis, on se retrouve très rapidement. Merci à Théo Dorangeon à la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction de RMC Sport qui nous aide chaque semaine. On se retrouve nous lundi prochain. Très bonne semaine à tous, salut.